Ali Rebeyi veut essayer de me planter sur le sujet d'aujourd'hui, mais pour grand bien vous fasse, eh bien, je vous laisse le dire vous-même.
C'est un sujet consacré à l'écoute médicale. Ça se passe bien avec votre médecin généraliste? Il vous écoute?
Il est parfait.
Vous êtes très bavard non plus?
Pas du tout, mais lui, il est très attentif. Et ça, c'est quelque chose de bien.
À tout à l'heure.
Et rare.
À tout à l'heure, Laetitia. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Le prof de philo qui réfléchit chaque lundi à notre vie quotidienne. Vous avez passé un bon week-end?
Oui, ça va.
Quel est le programme ce matin?
Alors ce matin, ça ne vous aura pas échappé Ali, c'est les soldes. Et donc on va se demander ce qui se passe quand on fait du shopping.
À tout à l'heure.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui.
Eh ben super.
Suivant.
Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Bah, pas trop.
Dommage. Suivant.
23 secondes, c'est le temps moyen laissé à un patient au début de consultation pour raconter ses symptômes. De plus en plus de patients se plaignent de ne pas être assez écoutés, avec le reproche récurrent d'un manque d'empathie de la part des médecins. Nous verrons ce matin pourquoi de nombreux praticiens n'écoutent pas ou n'écoutent plus, pris dans la spirale du rendement. Nous verrons pourquoi l'écoute médicale reste fondamentale pour soigner. Le processus de guérison débute bien souvent par une écoute attentive pour délivrer le bon diagnostic, améliorer l'observance des traitements ou encore apaiser les malades. Quelles sont les pistes pour renouer un dialogue constructif entre patients et soignants dans le cadre notamment d'une médecine dite narrative? Votre médecin généraliste vous écoute-t-il suffisamment? Avez-vous l'impression d'être écouté à l'hôpital? N'hésitez pas à témoigner ce matin au standard de France Inter 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebeyi.
Madame Richard?
Oh.
Je vous ai fait peur?
Oui.
Désolé.
Je rêvais. Bonjour, docteur.
Ça va?
Oui.
La douleur, ça va mieux un petit peu?
Oui, je me sens un peu mieux.
Ça fait plaisir de vous voir sourire. Ça a l'air d'aller mieux, oui, aujourd'hui.
Ça ne va pas durer.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que je le sais. N'est-ce pas, docteur?
Ça ne va pas s'améliorer? Ça, c'est sûr.
Il y a des choses auxquelles j'ai pensé et que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me garde longtemps dans un mauvais état, docteur.
Oui, je comprends ce que vous dites.
Merci.
Un extrait d'Hippocrate du médecin réalisateur Thomas Lilti avec le formidable Reda Kateb dans le rôle d'un interne très empathique. Bonjour, professeur Laurence Verneuil.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue et oncologue, professeur de dermatovénérologie et chef de service au CHU de Caen. Et vous avez publié avec Anne Réva Lévy, Docteur écouté chez Albin Michel. Alors, vous écrivez que dans la vie hospitalière, écouter le patient est devenu une question incongrue parce que naturellement, on n'écoute pas le patient. Ce n'est pas prévu, rien n'est prévu pour cela, écrivez-vous.
Oui, c'est un constat et un constat un peu atterrant. C'est pourtant en effet l'écoute, l'unité élémentaire de la relation de soins. C'est celle qui va permettre au médecin de construire avec le savoir du patient un diagnostic. Et puis bien au-delà, c'est en effet la question d'entendre et d'accueillir la souffrance, la douleur. Alors, pour quelles raisons, dans cette structure hospitalière, on n'écoute pas ou plus? Il y en a plein. Je dirais que, dans un premier temps, il y a, en effet, les pressions et les contraintes économiques et de temps. On nous positionne, en tant que chefs de service, comme des managers. On a, en effet, des comptes à rendre. Et ça rend la pratique médicale, au sens de son essence et de son essentiel, extrêmement compliqué. Ça réduit le temps des consultations. On est en permanence dérangé par des contraintes administratives, des urgences qui n'en sont pas, une organisation un petit peu complexe. Et finalement, on perd le sens de notre posture en tant que médecin au sein même de la relation avec le patient.
Et il est donc devenu naturel, normal de ne plus écouter le patient à l'hôpital?
C'est pas que ce soit devenu naturel, mais je crois que malheureusement, et c'est heureusement aussi pas le cas pour tout le monde, il y a plein de très très bons docteurs, mais c'est une espèce de tornade à l'image de la mondialisation, une espèce de fusion où les choses s'enchaînent et le médecin ne prend pas, à mon sens, assez de recul pour se dire finalement c'est quoi mon métier, qu'est-ce que je fais là, qui est le patient et comment je me mets en route dans ma consultation pour être un bon docteur, c'est-à-dire à mon sens quelqu'un de bienveillant et d'attentif.
Alors il existe bien sûr des médecins qui écoutent, mais c'est une écoute qui part d'une démarche personnelle, ça ne s'inscrit pas dans une démarche généralisée à visée thérapeutique.
Alors c'est une démarche, je pense, en effet, qui relève de plutôt de chacun et qui n'est pas... Jusqu'à ce jour, ceci dit, ça rentre un petit peu dans les fonctionnements, qui n'est pas institutionnalisé. Les facultés, pour l'instant, n'ont pas réservé d'espace spécifique à l'écoute médicale. Il y a des systèmes actuels qui se développent, comme les simulations. Et finalement, les jeunes docteurs ne sont pas confrontés à cette problématique qui, à mon avis, est essentielle. On nous apprend en faculté les organes, les pathologies d'organes, mais c'est quoi la dynamique d'une relation médicale? C'est quoi la position et la posture la plus attentive et la plus bienveillante et accueillante? Ça, on ne l'apprend pas. Donc ça relève de chacun.
Lui, c'est un médecin empathique qui écoute beaucoup et qui prend à cœur ce qui arrive à ses patients. Lui, c'est Baptiste Beaulieu. Bonjour.
Bonjour à toutes
et
tous.
Vous êtes auteur du blog médical à succès Alors Voilà. Vous êtes écrivain. Vous publiez La balade de l'enfant gris chez Mazarine, un roman initiatique, on y reviendra tout à l'heure. Vous êtes médecin à Toulouse, Baptiste Beaulieu, c'est un pseudonyme. Le plus beau métier du monde, mais aussi le plus laid, écrivez-vous, à propos du métier de médecin. Avec le temps, il est de plus en plus difficile d'enlever l'armure. Alors un jour, certains médecins ne l'enlèvent plus pour gagner du temps en efficacité. Et j'ajoute des médecins obsédés par l'efficacité qui n'écoutent plus.
Moi, je vais citer un exemple, hein, mais je me souviens très bien, lors de mes études, j'étais externe à l'hôpital en service d'hématologie et un patient était entré depuis 2 jours pour une asthénie, une grosse fatigue. C'était juste une asthénie nue, comme ça, juste une fatigue. Et je me souviendrai toujours du professeur d'hématologie qu'on idolâtrait parce que c'était vraiment une institution qui, avec tous ses externes, on devait être une dizaine, plus l'infirmière, l'infirmier, on rentre dans la chambre, il s'assoit sur le lit du patient, à côté du patient, et il lui dit « Bon, ben c'est une leucémie de haut grade, prenez vos dispositions. » Il s'est levé, il est parti. Et là, je me suis dit « Mais c'est pas possible, il vient pas de faire ce qu'il vient de faire de devant moi. » quoi. Et il a laissé le patient qui était vraiment exemple, qui comprenait pas ce qu'on venait de lui dire, quoi. Il l'a laissé comme ça et ça a été très 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 violent et je me souviendrai toujours de cette consultation-là. Enfin, consultation.
Baptiste Beaulieu, au cœur de votre pratique médicale, s'écouter, se parler, prendre le temps.
Regardez aussi le visage de l'autre, de son patient. Regardez ce qu'il nous dit pas, aussi tout ce qui est de l'ordre de la communication non verbale. Ça compte beaucoup. Et je crois qu'il y a une vraie asymétrie entre les soignants et les soignés. Les soignants au sens large du terme, j'englobe tous les soignants, parce que on est de facto dans une position de sachant et on est face à des personnes qui attendent de nous des réponses, parfois avec leur propre vocabulaire. Et je donne un autre exemple. Mais quand on a un petit gamin de 5-6 ans à qui on a dû faire une prise de sang et qui nous dit « Mais pourquoi l'infirmière m'a tapé sur la main alors que j'ai pas fait de bêtises ?» Là, on se rend bien compte que l'infirmière a tapé sur la main pour faire sortir la veine, mais si elle le dit pas à l'enfant, l'enfant va croire qu'il a fait une bêtise et qu'on le punit pour ça. Ou quand il voit qu'on lui emporte du sang, il dit « Mais où est-ce qu'il l'emmène ?» Parce que c'est mon sang, c'est à moi, ça m'appartient. Et effectivement, oui. Et je crois que les enfants ont beaucoup de choses à nous dire sur la communication.
Ne jamais oublier d'expliquer le discours médical et ce que l'on fait.
Ça me paraît important. Il faut toujours se remettre dans cette idée-là que la personne en face de nous est en droit de savoir ce qu'on va faire soit de son corps, soit de ce qu'on va prélever de son corps. Quand un patient est sur un brancard aux urgences et que on lui fait une prise de sang, si on lui dit pas que le laborantin a besoin d'une heure pour nous fournir les résultats et que ce temps est incompressible. La personne, vous voyez, ça m'a pris 10 secondes pour le dire aux gens à la radio là, mais si on ne dit pas au patient pendant une heure, il va penser qu'on s'est désintéressé de lui, qu'on est passé à quelqu'un d'autre, et ça va faire monter en lui un sentiment d'agressivité vis-à-vis du personnel. Alors qu'il suffirait juste de dire ça pour désamorcer quelques situations.
Professeur Laurence Verneuil.
Oui, j'adhère totalement à ce que vous dites. C'est en même temps, en effet, informer le patient, ça c'est essentiel, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un dogme, puisque finalement, dans l'esprit des docteurs, on est dans cette espèce de récurrence, il faut que j'informe, parce qu'il y a les problématiques de judiciarisation derrière, mais... ce qui est important, c'est finalement de savoir ce que le patient va avoir entendu de ce qu'on a pu dire. Et évidemment, pour savoir ce qu'il en a entendu, il faut l'écouter. Je vous explique que c'est comme ça. Est-ce que de lui restituer un discours et de l'écouter sur ce que lui-même a pu comprendre de ce qu'on a dit.
Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Directrice de Santé Magazine. Alors, vous évoquerez tout à l'heure une étude américaine récente qui affirme que les patients soignés par les femmes médecins ont 4% de risque en moins de décéder que ceux soignés par un homme.
Et oui, visiblement, la pratique médicale n'est pas la même selon que l'on soit une femme ou un homme.
On verra ça tout à l'heure en fin d'émission. Votre médecin généraliste vous écoute-t-il suffisamment? Avez-vous l'impression de ne pas être écouté à l'hôpital? Nous attendons vos témoignages 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Théo Denmat et c'est réalisé par Jérôme Boulet. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. Mama's gone around the bend. She hears voices in her head. Now with all the drugs she takes, she can't recognize my face. May she get l'excellent Cocoon pour bien commencer ce matin. Get Well Soon.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h20 et on s'intéresse ce matin à l'écoute médicale jugée insuffisante par de nombreux patients. Avec nous le professeur Laurence Verneuil qui publie Docteur Écouté et Baptiste Beaulieu, écrivain, médecin généraliste et auteur du blog médical à succès. Alors voilà, et l'auteur de La Balade de l'Enfant Gris.
Je viens vous voir parce que j'ai mal à la tête. Les douleurs ont commencé il y a 2 semaines. Je sais plus comment. Mais je me souviens que le soir, j'avais...
Et vous diriez que ce sont des douleurs qui durent toute la journée ?
Le matin, surtout.
Au réveil ?
C'est vrai que quand je me lève, j'ai mal à la tête, mais...
Au réveil, donc, surtout ?
Oui.
Et ce sont des douleurs d'un seul côté du crâne, devant, derrière ?
C'est variable.
Oui ?
En général, c'est devant, mais je...
Plutôt devant ?
Oui.
Très bien. Eh bien, je vais vous examiner.
Vous n'avez pas le sentiment de faire les questions et les réponses ? Non, tu trouves pas, Nicolas, qu'elle t'a orienté ? Qu'est-ce que tu allais dire au docteur Delésia quand elle t'a interrompu la première fois ?
Ben, je venais de commencer le nouveau traitement pour mon diabète.
Un extrait de Médecin de campagne de Thomas Lilti, sorti l'an dernier avec François Cluzet. Commentaire, Laurence Verneuil, Baptiste Beaulieu. Laurence Verneuil ?
Oui, c'est assez exemplaire de ce qu'on témoigne dans le livre avec Anne Révalévy. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film, mais j'irai, évidemment.
Mais il est nécessaire de donner le temps au patient de bien décrire ses symptômes sans l'interrompre ou encore de poser des questions ouvertes.
Je crois que dans une première phase, il faut en effet lui donner le temps d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Et finalement, les études montrent que en 2 minutes, l'essentiel est dit. Et ensuite, évidemment, le médecin est là pour essayer d'affiner le symptôme et la construction du diagnostic avec le patient.
Baptiste Beaulieu.
C'est-à-dire que c'est comme disait le professeur Verneuil tout à l'heure, c'est un colloque singulier, mais il y a déjà un biais, c'est-à-dire que la personne va nous parler de son corps qui est déjà un étranger puisqu'il est malade. Et donc ça rajoute une sorte de troisième personne en plus. Et quand j'ai par exemple un patient, c'est une histoire de chat ce que je vous raconte, mais c'est vrai, ça arrive. Un patient qui vient me voir en me disant j'ai mal au dos, j'ai conduit toute la journée d'hier pour les fêtes, pour rejoindre ma famille, et j'aurais très bien pu penser à un trouble squelettique lié à la conduite automobile. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas senti le truc, et je l'ai quand même fait un examen. Il était en train de faire un syndrome coronarien. Et à quoi c'est passé? Il aurait très bien pu rentrer chez lui et moi passer à côté aussi. Donc c'est très compliqué, ça. C'est très compliqué et effrayant.
Nathalie nous dit par mail, moi j'en ai assez de ne pas être écoutée par mon gynéco. À peine entrée dans le cabinet, hop, il faut se mettre nu et rédiger le gros chèque avec dépassement d'honoraires, même pas complètement rhabillé après examen, pas forcément utile. Et un autre mail de Martine qui nous dit, mon médecin à moi n'écoute pas. En plus, pendant la consultation, il reçoit plusieurs appels téléphoniques et je ne me sens vraiment de trop dans ce cabinet. J'hésite souvent à aller le voir car je sais qu'il n'y aura pas l'écoute que je souhaite. Laurence Verneuil.
Ben écoutez, ce sont en effet des exemples assez terrifiants et pas admissibles. Quand on fait des études médicales, on a une éthique et on a en effet des valeurs qu'on essaie de déployer. Et le médecin est là avant tout pour écouter. On ne peut pas construire un diagnostic sans le savoir du patient. C'est une co-construction. On a de notre savoir universitaire qui d'ailleurs est remis des fois en question, mais il y a tout le savoir du patient. Le patient sait son symptôme, sait ce qu'il ressent, et c'est cette co-construction qui permet d'aller vers un diagnostic et vers une connaissance d'abord du patient et une reconnaissance de sa maladie.
Baptiste Beaulieu, c'est dans votre nature d'écouter ou est-ce que vous avez appris à écouter, notamment pendant vos études de médecine ? Et d'ailleurs, quelle est la place de l'écoute pendant ces études de médecine ?
J'ai appris à le faire et je veux être honnête avec vous et avec les auditeurs et les auditrices. Vaut mieux aller voir son médecin le matin à 9h que le soir à 19h30. Mais c'est vrai, parce que l'écoute sera pas la même et c'est aussi parce que nous sommes des êtres humains et que avec des impératifs d'être humain et qu'on n'est pas forcément aussi ouvert à la parole de l'autre le soir que le matin. Après, pour ce qui est des études, ça a été une succession de choses que j'ai rencontrées au cours de mes études et qui m'ont bouleversé ou mis en colère vis-à-vis de l'institution et de ce que l'institution peut produire de pire, même si même si parfois elle produit des médecins et des soignants qui sont formidables.
Baptiste Beaulieu, vous souffrez depuis longtemps d'un petit lupus, une maladie auto-immune, et cette expérience vous a fortifié dans l'idée d'écouter vos malades, car les médecins qui se sont occupés de votre petit lupus vous ont rarement bien écouté.
Ça a été vraiment, avec le recul, c'est toujours difficile de dire ça, parce que ça a été une vraie souffrance. Vous savez, quand on est enfant, les gamins se moquent parce qu'on a la peau très rouge, c'est une maladie auto-immune que j'ai depuis que je suis enfant, et les gamins se moquent, et quand j'allais voir des médecins, et que le médecin me disait, mais c'est rien, tu vas prendre ce comprimé, ça va aller, mais que ça passait pas, et que j'avais toujours ces rougeurs sur le visage, et qu'on m'appelait le clown. Je me disais, mais le médecin m'a dit que ça allait aller, mais ça va pas mieux, j'ai toujours peur d'aller à l'école, j'ai toujours peur du regard des autres. Et quelque part, là, le fossé s'est créé, et là, je me suis dit, plus tard, je veux écouter mes patients et mes patientes.
Bonjour Elsa.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, vous appelez de Lyon.
Tout à fait.
Alors, vous avez un fils de 6 mois, c'est ça?
Alors, maintenant, il a un an, mais à l'époque des faits, il avait 6 mois, oui.
Alors, que s'est-il passé?
Eh bien, depuis l'âge de 4 mois, je voyais que mon fils avait un comportement un peu bizarre. Il bougeait pas trop, il souriait de moins en moins. Mmh. Et j'allais voir son pédiatre pour les visites mensuelles, comme le veut le protocole. Et je lui disais, il réagissait pas. À la visite du 6e mois, on constate un périmètre crânien très important, au-delà de la courbe. Et il réagit pas plus. Il met sur le carnet de santé à surveiller, et puis c'est tout, sans me dire quoi que ce soit. Je demande si c'est grave. Elle me dit non, à surveiller. Ok, d'accord. Et au bout de 15 jours, mon fils ne bougeait plus du tout. Il pleurait tout le temps. Il n'arrivait plus à prendre son biberon. Donc, j'ai senti en moi qu'il était en train de mourir. Donc, j'ai appelé ma généraliste qui m'a dit de venir de toute urgence. Elle l'a ausculté alors qu'elle ne l'avait jamais vu, en fait. Et donc, grâce à elle, on est arrivé aux urgences. Et 3 heures après, mon fils était opéré d'urgence vitale. Il avait une hydrocéphalie. Et 3 heures après, s'il n'avait pas été opéré, il serait mort dans la même journée.
Et c'est le généraliste, votre généraliste, qui vous a écouté?
C'est ma généraliste qui m'a écouté et qui, même si elle ne connaissait pas cet enfant, a écouté la maman, qui connaît très bien l'enfant, et qui a dit, bon, là, vous avez raison, il y a quelque chose de grave qui se passe, je fais naître aux urgences. Et le personnel hospitalier a été juste formidable. J'aime pas trop la France, parce qu'on tape toujours sur les hospitaliers. Mmh. Mais on a une chance, en tout cas à Lyon, d'avoir un hôpital pédiatrique qui est d'une qualité incroyable. Et merci beaucoup à tous les soignants.
Le professeur Laurence Verneuil et Baptiste Beaulieu acquiescent. Professeur Verneuil.
Oui, donc c'est une maman attentive, comme devrait être le médecin. Comme je le disais, en effet, le patient ou les accompagnants du patient ont un savoir fondamental dont le médecin doit tenir compte. Et à l'hôpital, les écoutants, c'est plus en effet le personnel paramédical et en particulier les infirmières.
Les aides-soignantes.
Qui sont, voilà, les aides-soignantes.
Les secrétaires aussi.
Les secrétaires, qui sont l'interface entre cet univers complexe de la médecine et le dehors qui souffre ou qui a des plaintes. Et elles savent aussi écouter au téléphone. C'est pas la fonction du docteur.
Merci beaucoup, Elsa, d'avoir appelé de Lyon. Bonjour, Anthony. Pardon, Maëlène, vous appelez d'Anthony.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Et vous êtes une ancienne militaire.
Tout à fait, je suis ancienne militaire et j'ai fait un burn-out. Et donc j'ai été voir le médecin généraliste, le médecin des armées, qui, quand je lui ai dit que je me sentais pas bien, que j'étais en train de craquer, m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire ma shot.
Carrément, directement, comme
oui,
ça.
Oui. Que si je voulais prendre des vacances, ben, j'avais qu'à poser des jours. Et que, voilà, fallait peut-être arrêter, voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous préconisez, vous qui avez vu beaucoup de médecins dans votre carrière de militaire?
Alors, dans ma carrière de militaire et puis dans ma carrière d'handicapé, parce que maintenant je suis handicapée, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors déjà, il fallait du temps pour avoir une relation de confiance avec un médecin, qu'on apprenne à se connaître. Et donc, moi, j'ai choisi de repartir sur mon ancien généraliste, que je connais depuis 25 ans, avec qui le dialogue est beaucoup plus facile, parce qu'on se connaît très bien. Et surtout, quand je vois un nouveau médecin, maintenant, je suis un peu dure, mais je lui dis très rapidement, écoutez, vous avez un bac plus 10, bac plus 15. Après, moi, j'ai un bac plus 28 de moi-même. Je me connais. Et donc, écoutez-moi. Et parce que... je sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce que je vois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëlène. D'Anthony, Baptiste Beaulieu, petit commentaire.
Mais le ressenti du patient, c'est le sien. On n'est pas concerné par ce ressenti-là, puisque c'est le sien et qu'on n'a pas à dire vous ressentez ça plutôt que ça. Non, le patient sait mieux que nous ce qu'il ressent dans son corps et dans sa corporalité. Donc, ce qu'elle disait, c'était quelque chose aussi d'intéressant. Et notamment, je reviens sur le témoignage d'Elsa et de son enfant. Il y a peut-être aussi, ce dont on parlait tout à l'heure en off, c'est cet effet bulle, c'est-à-dire que il faut arriver entre chaque patient à recréer un espace qui soit entièrement dédié au prochain patient. Et je donne un exemple, mais j'ai suivi tout cet été une patiente à moi qui a eu un accident de voiture terrible, vraiment, elle y était pour rien, c'est vraiment un drame, vraiment, elle est restée tout l'été avec ce qu'on appelle les fixateurs externes aux deux jambes, on avait failli l'amputer, c'est vraiment, et donc j'allais la voir en visite, et c'était vraiment lourd, je sortais de cet endroit, vraiment, c'était lourd, et j'arrive au cabinet médical, et je reçois une patiente qui venait pour une troisième fois, parce qu'elle avait trop de tension artérielle, malgré un régime approprié. Et c'est vrai que je lui ai dit comme ça, il va falloir vous mettre sous antihypertenseur probablement jusqu'à la fin de votre vie. Après, parfois ça peut disparaître, mais probablement que vous devrez en prendre jusqu'à la fin de votre vie. Et là, elle a explosé en sanglots. Et l'espace d'une seconde, je me suis dit, mais pourquoi elle pleure? C'est juste une hypertension artérielle. C'est pas une voiture qui l'a percutée. C'est pas des fixateurs externes. Et en fait, non, je me suis rendu compte que pour elle, c'était quelqu'un qui venait de lui dire, vous allez devoir prendre un comprimé tous les jours jusqu'à la fin de vos jours, quoi, avec les facteurs de risque cardiovasculaire que ça impliquait et tout ça. Et donc, c'est essayer, chaque fois qu'on dit au revoir au patient, de se remettre dans une nouvelle bulle.
Allez, il est temps de retrouver la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Rebonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Rebonjour Ali.
Alors cette semaine, dans votre petite philo de la vie quotidienne, vous vous intéressez aux soldes et au shopping, au magasinage, pour parler comme nos amis québécois.
Bonjour madame.
Vous êtes
en code social, n'hésitez pas. Oui, en fait c'est un magasin pour grosses ou c'est à cause des soldes, il y a que du 42?
Non.
Bon, bah y a rien qui me va, alors je pense que c'est très très mal coupé. Mais vous avez fait une collection spéciale soldes ou quoi?
Voilà, vous aurez peut-être reconnu Camille Cotin, la connasse, hein, caméra cachée un peu étrange. Alice, c'est chaque année pareil. À peine on a fini les courses de Noël, fin décembre, que début janvier, on s'y recolle, mais pour les soldes, hein, cette fois. C'est donc reparti, hein, la folie dans les magasins, l'accumulation des réductions, la profusion des marchandises, et puis cette bizarre impression de se retrouver encore une fois dans une sorte de grand rite collectif, hein, dont on ne saisit pas tout à fait le sens. Les soldes privés, les ventes privées, voilà, il y en a plein maintenant. Ce sont des invitations assez paradoxales, puisqu'il s'agit en fait de consommer plus, mais en dépensant moins, ou de dépenser moins pour consommer plus, paradoxe donc qui fait mal à notre raison et qui fait que sorti du délire, on se trouve un peu perdu.
Alors pourquoi continue-t-on à céder aux sirènes des soldes ?
Eh bien peut-être pour deux raisons bien différentes. Ou bien parce qu'on est totalement aliéné par une logique de consommation et puis que acheter est devenu pour nous un des seuls moyens de se sentir exister. Alors ce sont, vous savez, ces achats qu'on fait de façon un peu compulsive et qu'on a bien de la peine à expliquer, puis qui nous laisse aussi une sorte de drôle de goût dans la bouche. Ou bien au contraire parce qu'on fait les soldes comme une activité raisonnée. Oui, c'est possible, hein, en s'engageant résolument dans une expérience un peu plus complexe qu'il n'y paraît et pour construire finalement autrement une identité à travers la composition d'un style. Alors c'est une hypothèse qui est émise et que l'on peut comprendre à la lecture d'une très convaincante petite philosophie du shopping écrite par Frédéric Pernin. Et pour Frédéric Pernin, tout commence par le regard.
Le fameux lèche-vitrine ou pour les soldes, le fameux repérage.
Oui, le shopping, vous savez, on commence d'abord par une certaine manière de voir. On prend plaisir donc à la contemplation de la profusion des choses, des tas de vêtements dans des bacs ou sur des portants. Mais c'est à partir de cette profusion qu'il faut être capable aussi de voir et de reconnaître ce qui m'ira parfaitement. Ce petit top noir à fines bretelles pour mettre sous mon chemisier en soie, ou bien cette veste grise doublée de Liberty. Bref, c'est un jeu de soi avec soi, une sorte de projection où je m'essaye dans plusieurs styles avant d'essayer vraiment les vêtements, un peu comme Montaigne, voilà, qui s'essayait lui aussi dans ses essais à plusieurs philosophies.
Alors tout commence par le regard et ça se poursuit avec le choix.
Mais bien sûr, parce que le drame, évidemment, Alice, c'est qu'on ne peut pas tout acheter et qu'il faut bien choisir. Alors pourquoi choisit-on tel vêtement plutôt que tel autre ? Choisir cette petite robe pull plutôt qu'une jupe longue ? Est-ce que c'est me conformer à une norme sociale ou à une mode ? Alors sûrement un petit peu, parce qu'il est difficile de faire abstraction justement de la mode et des normes sociales, et puis aussi du regard des autres. Mais en même temps, mes choix manifestent une certaine manière individuelle de réagir à cette mode et à ces normes, et donc de s'en libérer. À ce moment, faire du shopping, ça peut devenir l'épreuve pratique de sa liberté, comme une sorte de libération et comme jeu encore, avec des images de soi attendues et puis des images de soi qu'on va inventer et qui vont façonner un style bien à nous, juste avant en tout cas de passer à la caisse.
Le moment de l'achat proprement dit, avec ses doutes et sa mauvaise conscience.
Oui, c'est le moment où on se demande, est-ce que c'est bien nécessaire et bien raisonnable d'acheter 3 pantalons, 3 jupes, 4 tops de chemisier, 3 pulls de robe ? Et puis en même temps, en période de solde, hein, les lignes du raisonnable changent et par le miracle des réductions, la dépense se transforme en économie. Plus je dépense, plus j'économise et ce qui paraissait superflu devient donc nécessaire. La valse des étiquettes est aussi une sorte de valse des catégories de l'appréciation morale. Et finalement, il est peut-être plus raisonnable de dépenser en période de solde qu'en dehors des soldes. Au bout du bout, je reviens épuisé de mon shopping, mais avec tout plein de nouveaux vêtements. Et ces vêtements qui ne sont en fait que des signes, signes que je vais manipuler pour exprimer à moi-même et aux autres les nouvelles figures de mon identité, en me souvenant finalement, comme le disait le philosophe Bachelard, que l'homme est une création du désir et non pas du besoin.
C'est pour vous la petite robe pull que vous avez repérée ?
Voilà, c'est ça.
Thibaut de Saint-Maurice, à propos d'écoute médicale, il faudrait peut-être que certains médecins renouent avec Socrate et sa maïeutique, sa célèbre méthode pour accoucher les âmes.
Oui, en tout cas, ça peut être une inspiration parce que cette méthode donc de recherche de la vérité, hein, philosophique, elle repose sur une idée assez forte tout de même, c'est que la vérité est déjà chez la personne à qui on pose la question. C'est-à-dire qu'en fait, les vérités, on ne fait que les redécouvrir. Alors, on peut pas les redécouvrir tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin de Socrate, c'est pour ça qu'on a besoin des médecins. C'est que leurs questions et la qualité de leur écoute vont permettre aux patients de faire ressortir un certain nombre d'éléments pertinents. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est que la relation est inversé au départ.
Votre médecin vous écoute-t-il suffisamment ? Avez-vous l'impression d'être écouté à l'hôpital ? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
À lire EBI sur France Inter.
Paradis recto verso.
Ribille. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h40 et on s'intéresse ce matin à l'écoute médicale jugée insuffisante par de nombreux patients. Avec nous ce matin, le professeur Laurence Verneuil et Baptiste Beaulieu, écrivain, médecin, généraliste et blogueur.
Je voulais vous dire, vous savez, ce matin, quand vous êtes passé en voiture, vous m'avez fait signe. C'est la première fois de ma vie qu'un docteur me fait signe dans la rue. C'est peu de choses, mais ça dit tout. Mais surtout, je voulais vous dire, le jour où on est allé vous voir pour la première fois, vous vous souvenez, on sortait de chez le docteur Jardin. Ma femme, elle n'en pouvait plus. Elle s'était mise à pleurer comme je l'avais jamais vue pleurer. Elle lui avait dit, docteur, faites quelque chose. Et il avait répondu, Madame Desoulières, je ne peux plus rien pour vous. Et là, ma femme a dit, appelle docteur, on s'en va. C'est là que ma femme a dit, on va aller voir le nouveau docteur. J'ai dit, on n'a pas rendez-vous et puis on le connaît pas. Et ma femme a répondu, on n'attendra pas plus que chez l'autre. C'est vrai, on avait attendu plus d'une heure parce que le docteur Jardin donne toujours 3 rendez-vous à la fois. Ça dit tout.
Parole de patient dans cet extrait de La maladie de Saxe de Michel Deville en 1999, adapté du roman de Martin Winkler. Baptiste Beaulieu, vous écoutiez l'extrait avec attention.
Ben, j'aime beaucoup Martin Winkler, tout simplement. Et là, je sais que certains médecins lui contestent le droit de pouvoir s'exprimer sur la maltraitance médicale parce qu'il n'exerce plus. Mais je trouve que c'est un argument bidon parce que on est tous concernés par la maltraitance médicale parce que s'il n'est plus, entre guillemets, médecin exerçant, il reste quand même patient, donc concerné. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup.
Baptiste Beaulieu, dans le joli portrait que vous consacre le mensuel Cosette, il est dit que votre empathie est à la fois votre force et votre talon d'Achille. Vous perdez pied quand l'un de vos jeunes patients décède, par exemple.
C'est le propos de mon dernier roman. La balade de
l'enfant gris.
J'ai raconté comment, au cours de mes études, j'ai quitté quelque temps le milieu hospitalier pour partir à Rome puis à Jérusalem parce que j'avais besoin de verticalité, de comprendre ce qui s'était passé dans cette chambre où cet enfant était mort et qu'on nous avait pas expliqué à la fac. Vous savez, j'avais eu l'impression que mes professeurs, la société, les livres m'avaient menti puisque dans les livres et dans la fac, les professeurs disent le patient ou la patiente vient avec tel ou tel symptôme, on lui prescrit tel examen complémentaire, puis tel traitement et puis il ou elle repart. Et là, je me suis rendu compte que parfois ça ne marche pas et parfois ça ne marche pas même avec des enfants.
Dans La balade de l'enfant gris, vous racontez l'histoire de Joe. Joe, c'est le meilleur étudiant du service hospitalier où il travaille. Il est destiné à de grandes choses, hein, selon son chef. Joe a la médecine dans le sang. Et ce jeune interne s'attache à Noe, un petit garçon âgé de 7 ans, espiègle, atteint d'un mal incurable. Et puis un jour survient le drame, ce que vous appelez dans votre roman la déchirure. Le petit garçon, Noe, meurt. Ce petit garçon va hanter le jeune interne sous forme d'apparition.
Oui, c'est-à-dire que sa mère a fait quelque chose dans la chambre d'hôpital auquel a assisté le jeune interne. Et le jeune interne n'arrive pas à oublier ce qu'a fait cette mère et qu'il n'arrive pas à pardonner non plus. Et donc il va décider de partir avec le fantôme de l'enfant à la recherche de cette femme et de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait dans cette chambre et qu'il n'arrive pas à pardonner.
Alors, avant la mort inéluctable du petit garçon, le jeune interne, Joe, écoute son jeune patient, dialogue avec lui, l'écoute beaucoup et lui ment beaucoup aussi. Le mensonge, c'est l'un des fils conducteurs.
C'est un thème qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Et j'en parlais tout à l'heure avec le professeur. C'est que il y a certains soirs, je rentre chez moi où pour des raisons différentes, j'ai dû, par exemple, mentir à un patient et je me regarde dans la glace et je me demande si quelque part je ne fais pas un métier d'imposteur. Je vais donner un exemple. Ça va faire grincer des dents, mais quand je prescris de l'homéopathie, par exemple, à un patient, moi, je suis scientifique, donc je me base sur des études scientifiques et en dehors de l'effet placebo qu'on connaît bien de l'homéopathie, il n'y a pas d'effet autre et donc oui, je me sens comme un imposteur parfois.
Professeur Verneuil.
Oui, alors Baptiste, oui, l'homéopathie probablement placebo, mais en fait, il n'y a peut-être pas que ça. Et il y a tout le champ des médecines complémentaires, en effet, l'homéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, la méditation. Beaucoup de patients, 80% des patients français sont allés voir un médecin dit alternatif. Pour quelle raison? Parce qu'en effet, il y a une écoute qui est bien plus attentive et que probablement, il y a des choses qui nous échappent. On est très dogmatique, nous, les professeurs de médecine. On a le savoir à qui, mais il y a plein de choses dans l'univers qu'on ne connaît pas et dans la science aussi. Et il faut reconnaître ces espaces-là comme outil de traitement.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai vu la semaine dernière un médecin d'un centre antidouleur qui me disait que justement, même si elle n'avait pas d'explication, l'hypnose et l'auriculothérapie, par exemple, donnaient d'excellents résultats. Donc, je crois que, comme vous le dites, c'est pas uniquement une question de traitement, c'est la prise en charge à travers ces consultations où l'entretien est différent et peut-être la relation du patient et du médecin aussi différente.
Nina, infirmière, nous dit « L'écoute médicale ne peut pas exister sans écoute empathique ». Il ressemble à quoi le médecin empathique, professeur Verneuil ?
Oui, alors l'écoute empathique, c'est un peu une tautologie, mais enfin, l'empathie, c'est un espèce de concept qu'on voit traîner partout.
On peut écouter de façon distraite aussi.
Voilà, oui, on peut absolument, mais l'empathie, le fondement de l'empathie, c'est avant tout l'écoute. Si déjà on comprenait que pour être un bon docteur, il faut écouter, et à partir de là, on est empathique. L'empathie, c'est une reconnaissance, en effet, de ce que l'autre éprouve. Il y a toute une complexité d'interrelation psychique qui se met en branle, mais le fondement, l'unité élémentaire, c'est l'écoute. Vous ne pouvez pas être empathique si vous n'avez pas écouté votre patient.
J'aimerais qu'on évoque l'annonce de la mauvaise nouvelle. Laurence Verneuil, je rappelle que vous êtes médecin oncologue. C'est un moment terrible pour le patient et c'est évidemment un moment difficile pour le médecin.
Alors là, c'est absolument terrible et en effet, c'est difficile de faire. Et c'est difficile de faire d'autant que dans l'hôpital, on a affaire à ces jeunes docteurs, les internes, qui n'ont pas été formés pour ça et qui sont en première ligne de ces annonces complexes. Et là, je crois qu'il faut être capable, justement, on parlait avec Baptiste tout à l'heure, de savoir ce que le patient a envie d'entendre. On ne doit pas être dans une information systématique.
Il faut mentir aussi ?
Alors, il faut mentir. Je ne sais pas si c'est mentir, c'est plutôt être en adéquation avec ce que le patient a envie d'entendre.
Baptiste Beaulieu.
Ouais, cet été, j'ai un patient que j'ai accompagné jusqu'au bout et donc je l'ai vu la première fois, il venait pour une asthénie, une fatigue, puis on lui a diagnostiqué il l'appelait mon petit pamplemousse au niveau des poumons, et je l'ai accompagné jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin, il parlait de son petit pamplemousse et pas un seul instant, il n'a prononcé le mot cancer. Pas un seul instant, je n'ai prononcé le mot cancer, même si... ce qui était curieux, c'était que c'est quelqu'un qui venait d'un niveau socio-culturel très très haut, et pourtant, il y avait quand même ce déni, cette incapacité du mot qu'on ne doit pas prononcer, comme si on allait convoquer quelque chose de terrible d'un seul coup. Et c'est étonnant de se dire qu'il n'est pas mort du cancer, mais d'un petit pamplemousse, et oui.
Et beaucoup de médecins ne veulent pas écouter par peur d'être débordés par leurs émotions, professeur Verneuil. De se retrouver trop impliqués personnellement.
Oui, il y a plusieurs éléments. Il y a en effet toute l'angoisse du patient, toute sa douleur que lui projette sur le médecin, et qu'est-ce qu'on fait quand on est docteur de ça, et comment ça rentre en résonance finalement avec nos propres angoisses à nous, êtres humains. On se pose les mêmes questions sur notre mort, et ça c'est compliqué. Il y a des systèmes pour le résoudre.
Baptiste Beaulieu.
Oui, c'est comme un miroir tendu vers nos propres interrogations, donc c'est vrai que ça nous questionne, mais c'est aussi une question d'arriver à se mettre à la hauteur de la personne qu'on a en face de soi. Et je donne juste un exemple parce que je le trouve beau et qui m'a marqué durant mes études. Il y avait un patient qui était très âgé, qui était hospitalisé pour un syndrome de la tortue. En fait, il était resté allongé trop longtemps. Et donc, j'avais fait une très, très belle observation parce que le chef de service nous effrayait tous. Et donc, j'ai fait mon rapport au chef de service. Et à la fin, le chef de service m'a dit, c'est bien, mais est-ce que tu l'as mis par terre, ce patient? Et je disais, pardon, j'avais pas compris ce qu'il me disait. Mais est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu l'as mis par terre? Et je dis, non, parce que dans ma tête, je pouvais pas mettre un patient par terre. Il me fait, tu vas dans sa chambre, tu le mets par terre et t'essayes de comprendre pourquoi il s'est pas relevé. Et une fois que t'as compris ça, tu lui apprends comment se relever. Et donc, je me souviens aller dans la chambre de ce patient, le mettre par terre et m'allonger à côté de lui et lui apprendre à se relever. Et c'est aussi peut-être ça, l'écoute, c'est se mettre à la hauteur de la personne.
Bonjour Cécile, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Bordeaux.
Oui, c'est ça.
Et vous avez une question pertinente, je crois.
Je vais d'abord la poser, on verra ensuite si elle est pertinente. En vous écoutant, une réflexion très spontanée m'est venue. Et
voilà, j'entends beaucoup de mes amis critiquer leur médecin, dénoncer son manque de clairvoyance, parce que quand ils y vont, ils savent déjà ce qu'ils ont. Et donc, je me demandais juste si cette omniscience supposée du patient n'avait pas une tendance à exaspérer certains médecins et pourrait justifier leur manque d'écoute, ce qui est dénoncé par certains patients, mais qui veulent absolument avoir la maladie qu'ils se sont auto-diagnostiqués grâce à, notamment à Internet, voilà. Est-ce que ça ne coupe pas les jambes aux médecins qui, du coup, perdent patience, en gros, voilà.
Professeur Verneuil.
Je crois qu'il y a deux dimensions dans ce témoignage. Il y a qu'en effet le savoir du patient n'est pas forcément entendu et qu'on nous a toujours enseigné quand même une espèce de sacralisation et d'idéalisation du sachant qu'est le docteur. Et puis après la question d'Internet. Alors elle est plus complexe que ça parce que moi je pense qu'en fait Internet est finalement une voie qui va aider le patient à interpeller son médecin. Mais le problème, c'est qu'il va l'interpeller sur le même niveau, c'est-à-dire de sachant à sachant. Moi, voilà, je sais que sur Internet, j'ai vu que ce médicament, et que finalement, on demande pas ça au patient, on lui demande de nous raconter le savoir de son vécu de la maladie, et pas de se mettre au niveau du médecin.
Merci beaucoup, Cécile, de nous avoir appelé de Bordeaux. Baptiste Beaulieu, ça vous agace parfois, les patients qui viennent barder d'informations en provenance d'Internet?
Moi, j'ai un gros souci, mais je pense que tous les médecins généralistes qui nous écoutent auront le même, c'est les antibiotiques. Je n'en peux plus d'expliquer aux gens qu'un rhume ne nécessite pas une antibiothérapie. Et j'ai beau leur dire que ça va provoquer une diarrhée ou des mycoses vaginales, certains patients veulent leur mycose, veulent leur diarrhée, et quand ils partent sans les antibiotiques, je vois dans leurs yeux que je suis un mauvais médecin parce que j'ai pas donné l'antibiotique, et ça fait mal.
Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine.
Pour les antibiotiques, pourtant sur les sites internet, oui, on dit que c'est pas automatique. Mais je trouve que sur les forums, c'est quand même intéressant. Il y a un échange aussi entre malades et notamment sur des maladies chroniques où ils peuvent se retrouver. Absolument. Et échanger des conseils.
Professeur Laurence Verneuil, quelles sont les grandes vertus de l'écoute ?
Les grandes vertus de l'écoute, c'est le
diagnostiquer,
voilà, c'est l'essentiel de la posture médicale. C'est en effet pouvoir construire un diagnostic. C'est en effet avoir plus d'observance vis-à-vis d'un traitement. C'est faire comprendre aux patients si le traitement est adapté ou pas. Et puis, donc ça, c'est dans la mission de guérir. Mais c'est aussi l'écoute, c'est soulager le plus souvent et consoler tout le temps. Donc c'est la dimension relationnelle qui va être aussi une dimension de soin, la relation en soi, au-delà du médicament, au-delà de l'écoute qui a permis le diagnostic, elle est traitante.
Combien de temps dure en moyenne une consultation en médecine générale en Europe? J'ai vu que selon des chercheurs belges et néerlandais, c'est à peu près 10 minutes. En France, c'est 14 à 15 minutes.
Oui, c'est ce que, en effet, les études révèlent. Le temps de consultation, à mon sens, est incompressible. Et je dirais que 20 minutes, ça me semble le minimum nécessaire. Après, la qualité de la consultation, elle est aussi liée justement à la capacité que le médecin a eu d'écouter et que le patient se sent satisfait de cette écoute. Et la consultation peut sembler longue juste parce que le médecin a été extrêmement présent et extrêmement à l'écoute.
Et une synthèse britannique qui s'appuie sur 14 études montre qu'un temps plus long de consultation entraîne moins de prescriptions et davantage de conseils, par exemple sur le style de vie ou la promotion de la santé. Baptiste Beaulieu, combien durent en moyenne vos consultations?
C'est une bonne question. Après, moi, je consulte toujours sans rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'il y a souvent du monde en salle d'attente. Et donc, j'adapte évidemment le temps de la consultation au motif. C'est-à-dire que si la personne vient pour un certificat de sport, évidemment, je ne vais pas passer 20 minutes avec elle pour le certificat de sport. Mais je préfère passer 30 minutes avec la personne qui vient pour un syndrome dépressif et parler avec elle.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alors Aline Perraudin, je rappelle que vous êtes directrice de Santé Magazine. Une étude américaine récente affirme que les patients soignés par les femmes médecins ont 4% de risque en moins de décéder que ceux soignés par un homme.
Oui. Ce sont des chercheurs de l'université de Harvard qui ont analysé en fait les données cliniques de plus d'1,5 million de personnes, des bénéficiaires du programme de couverture médicale des retraités médicaires. Et chez ces patients, donc, qui étaient tous âgés de plus de 65 ans et qui avaient été hospitalisés, ils ont constaté que ceux qui étaient suivis après leur sortie de l'hôpital par un médecin généraliste femme, avaient moins de risques de décéder que ceux qui étaient suivis par un médecin généraliste de sexe masculin. Et ils avaient aussi moins de risques, ces patients, de retourner à l'hôpital dans le mois qui suivait leur sortie. Alors, les chercheurs ont avancé plusieurs hypothèses. Ils estiment que c'est, en fait, les femmes ne pratiquent pas tout à fait comme les hommes, qu'elles semblent davantage adhérer aux recommandations cliniques, et surtout qu'elles donnent plus de conseils de prévention, psychosociaux, et qu'elles sont généralement plus à l'écoute des patients. Donc, je ne veux pas dire que toutes les femmes pratiquent mieux que les hommes, mais il semblerait que quand même que le sexe, mais il y a une influence, notamment qu'elles soient plus sensibles avec leurs patients.
Professeur Laurence Verneuil.
Oui, bah écoutez, en tant que femme, voilà, je crois que j'adhère à ce travail. Non, néanmoins, trêve de plaisanterie, la prévention, c'est fondamental. Malheureusement, en France, on n'en fait pas. Et les femmes, je crois, ont compris qu'il fallait donner des conseils et qu'il fallait écouter les patients.
Il y avait une étude précédente sur le suivi des diabétiques de type 2 qui montrait aussi que les femmes étaient plus à l'écoute et donnaient plus de conseils de prévention que les hommes.
Bonjour Bastien.
Bonjour.
Vous appelez de la bonne ville de Toulouse, la ville de Baptiste Beaulieu, et la mienne également. Vous êtes médecin généraliste.
Oui, j'en profite d'ailleurs pour saluer Baptiste et le remercier de porter notre voix comme il le fait dans votre émission.
Et sur son blog également.
Exactement.
Dites-nous tout, vous avez la chance de conclure l'émission.
Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avaient dit vos intervenants tout à l'heure sur le déficit de notre formation en tant que médecin à savoir écouter les patients. Ça s'améliore petit à petit, notamment pour nos générations, mais parfois ce qui est difficile, c'est d'apprendre qu'on n'a pas la réponse. Ou en tout cas, pas la réponse idéale, technique, scientifique, qu'on aimerait donner aux patients. Et savoir tout simplement écouter en disant « je vous répondrai si je peux » et « si je ne peux pas, je vous dis que je ne sais pas » et « je vous explique ce que je ferai pour vous » qui peut être différé, etc. Et généralement tout à fait bien compris par le patient, mais remet en cause l'idéal un petit peu de savoir absolu que doit avoir le médecin qui est encore enseigné dans les facultés.
Merci beaucoup, Bastien, pour votre témoignage de conclusion. En quelques secondes, Laurence Verneuil, c'est quoi la médecine narrative ?
La médecine narrative, c'est en fait celle qui, en effet, va prendre en considération l'écoute du patient, mais l'écoute de l'environnement médical, les infirmières, la famille, pour en faire un discours dans sa propre tête et construire le diagnostic.
Baptiste Beaulieu, un mot de conclusion.
Je crois que l'écoute, c'est vraiment aussi regarder le visage de l'autre et ce qu'il a à nous dire de sa trajectoire.
Merci beaucoup Laurence Verneuil. Je conseille Docteur Écoutez chez Albin Michel. Merci Baptiste Beaulieu. Je recommande votre beau roman La balade de l'enfant gris chez Mazarine. Et je recommande également votre blog. Alors voilà, à la technique ce matin, Éric Morin et Alice Berger. La programmation musicale était signée à Muriel Pérez. Demain, on se demande jusqu'où ira l'ubérisation de la société. À suivre Nagui et sa bande originale.